très difficile de démarrer un thème comme ça parce que le développement durable, vous en soupez soir et matin, quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a même des livrets, des comptes en banque qui s'appellent des comptes développement durable. Il faudra qu'on m'explique en quoi le compte il est plus durable que le compte qu'il y avait avant. Mais enfin, ça fait vendre, voyez. Vous avez même de la bouffe durable, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est étonnant. C'est la même pomme qu'avant, mais tout à coup, on ne sait pas pour quelle raison, elle devient durable. Peut-être aussi parce que là aussi, ça se vend. Vous voyez ? Alors, la meilleure manière de comprendre les choses quand elles deviennent tellement confuses qu'on tous portent le même nom et que tout est pareil à tous, c'est peut-être de remonter un peu aux origines et de voir un peu d'où vient ce développement durable, comment il est apparu. Et surtout, quels étaient les enjeux cachés. Parce que quand on démarre, quand on examine quelque chose, ce que l'on voit toujours, c'est l'aspect émergé de l'iceberg. Et comme chacun sait, dans un iceberg, les 5 sixièmes sont immergés. Donc on va s'intéresser à l'aspect émergé et à l'aspect immergé. Et avant le développement durable, vous savez, les gens se préoccupaient d'environnement. Hein, ça n'est pas d'aujourd'hui comme préoccupation. Alors j'aimerais vous poser une question. Vous n'étiez pas né à cette époque-là, mais vous avez sans doute entendu dans votre scolarité parler des mouvements environnementalistes, des préoccupations pour l'environnement, sommet de la Terre de Stockholm, tout ça, ça vous dit quelque chose, Club de Rome, vous avez dû entendre ces trucs-là, quoi. Et je voudrais vous poser une question toute con, quoi. Comment se fait-il que tout à coup, au milieu des années 70, on voit, écoutez, ça pousse comme des champignons en automne, quoi. On voit apparaître tout un tas d'initiatives environnementales importantes. Vous avez le premier sommet de la Terre qui est à Stockholm, je crois que c'est 72, sauf erreur. Vous avez le Club de Rome, vous en avez sans doute entendu parler, à peu près la même époque. Vous avez les premiers mouvements écologistes qui apparaissent, années 70. Pareil. Vous avez les premiers candidats écolo, vous rappelez René Dumont qui boit son verre de flotte, tout le monde a vu ça, même si vous n'étiez pas né. Et pourquoi ? Non, parce que si on regarde vraiment l'état du monde, je ne sais pas si vous savez, mais il y a quand même eu une révolution industrielle plus d'un siècle avant. Et tous les gens qui vont au cinéma et qui ont vu Sweeney Todd, vous savez, le barbier là de Londres, savent très bien que Sweeney Todd vivait dans une ville, et c'est à peu près bien reproduit, qui était dans un état de pollution absolument épouvantable, dans des extrêmes sociaux, une pauvreté, une misère pour une grande catégorie de population colossale. Je vous rappelle quand même, vous avez dû voir ça dans des cours de biologie, il y avait un papillon, vous savez, ça s'appelait la phalène du bouleau. Il avait une forme sombre et une forme obscure. Et en fait, il était... Il vivait collé, on va dire, il se posait sur les troncs de bouleau. Vous savez, le bouleau, c'est cet arbre avec une écorce grise. Eh bien, pendant très très longtemps, la forme dominante, celle que l'on trouvait partout, c'était la forme claire. Eh bien, à l'époque, la pollution industrielle était tellement forte, le charbon, dans les années au 19e siècle, que la forme noire est devenue prépondérante parce qu'elle se cachait mieux sur le bouleau. Pourquoi ? Parce que les troncs du bouleau, ils étaient complètement... gris sombre. C'est vous dire la pollution, c'est vous dire ce que les gens respiraient, quoi. Et bizarrement, personne ne se préoccupe à l'époque de l'environnement. Personne. Vous avez une seconde guerre mondiale, vous avez dû voir des films. Alors là, les marées noires, à côté, il y en avait un paquet, hein. Les destructions massives, les meurtres de masse. Quelqu'un se préoccupe de l'environnement ? Personne. On arrive aux États-Unis, on est dans la conquête de l'Ouest, on a une modification importante des biotopes, une modification importante des populations animales et également humaines. À part un gars qui s'appelait Perkin Marsh et qui a sorti un bouquin au 19e siècle que personne n'a lu, qui se disait, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Personne. Et tout à coup, au milieu des années 70, on ne sait pas pourquoi, l'environnement devient une préoccupation. Alors, si vous voulez, on va analyser ça parce que ça a un rapport avec les origines du développement durable. En gros, qu'est-ce qui caractérise l'après-guerre en Europe ? Parce que c'est quand même en Europe que ça apparaît. Le développement durable, comme les questions d'environnement, sont essentiellement des préoccupations de pays riches au départ. Qu'est-ce qui se passe dans l'après-guerre en Europe de particulier ? Dans les villes qui ont été détruites de manière relativement importante, eh bien, on est dans des phases de reconstruction. Et l'on a également des populations qui viennent de partout dans le monde ou de partout en Europe, certains ici en sont les enfants, moi aussi, s'installer autour des villes pour faire fonctionner l'ascenseur social, pour vivre dans des conditions meilleures, etc. Mais vous comprenez bien que si d'un côté on a une ville qui est complètement détruite et que de l'autre côté il y a un afflux de population dans cette ville, eh bien rapidement on est assez vite coincé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de logement pour tout le monde. Et l'on rentre, je simplifie exprès, dans l'après-guerre, dans une période qui est une période de crise de logement très 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 forte. Et la réponse à cette crise de logement, c'est quoi ? En fait, pour vous la faire courte, c'est la construction de grands ensembles. Parce que c'est une vraie crise, hein. Ce n'est pas actuellement où il y a des logements qui sont vides et où simplement les loyers sont trop élevés ou alors c'est volontairement bloqué. Il n'y a vraiment pas de moyen de loger les gens, même s'ils ont les moyens. Et donc on commence à développer ces grands ensembles dans les périphéries des villes qui sont des espaces qui sont des espaces salubres, clairs, aérés et qui correspondent un peu à l'aspiration d'une population qui aspire à de la modernité. Et donc dans ces grands ensembles, on a ce qui ne se retrouvera pas ailleurs après, une réelle mixité sociale, c'est-à-dire que l'on va avoir des populations très aisées mais qui n'ont pas les moyens de se loger dans des endroits un peu attractifs, des populations plus pauvres, des populations aidées, etc., qui vont cohabiter dans ces espaces. Et il va se faire une espèce de lien. Les gens vont vivre ensemble et vont commencer à développer, dans des trucs qui s'appelaient les maisons des jeunes et de la culture, dans des associations, vont commencer à développer des mouvements associatifs et vont commencer à agir. Et donc des personnes qui, pour le dire rapidement, auparavant fermaient leur gueule, eh bien, ils vont commencer à l'ouvrir. Voilà. Parce que le relais se fait entre des catégories de population très très différentes. C'est très particulier. À l'époque, les grands ensembles ne sont pas des ghettos. Ce sont des endroits où on aspire à être. Ce décor étant planté, imaginez donc toujours dans ces années 60-70 que pour la personne qui vient du fin fond de la Creuse, et j'utilise exprès un exemple assez proche, hein, le fin fond de la Creuse, c'est pas très très loin, et qui est d'un milieu paysan, c'était pas des agriculteurs à l'époque, vivant dans des conditions qui étaient assez proches de celles qu'il avait au XVIIIe siècle, se retrouver dans une maison avec le chauffage au sol, une grande baie vitrée, la salle de bain, et prendre le métro pour aller travailler, pour cette personne-là, c'est exactement la même chose que vous prenez Mulder et vous le prenez dans un ovni et vous l'enlevez chez les extraterrestres. C'est quelque chose qui est totalement déconnecté des repères qu'il avait et des modes de vie qu'il avait auparavant. Du coup, dans ces populations, et elle ne venait pas toutes de la Creuse, elle pouvait venir beaucoup plus loin, dans ces populations qui vivent dans ces grands ensembles, apparaît un sentiment à la fois de confort, certes, mais également de déshumanisation, de manque de repères, de perte des repères traditionnels qu'ils avaient. C'est l'époque où on voit fleurir métro, boulot, dodo. C'est l'époque, les trucs que vous avez dû voir en littérature, la littérature de l'ennui, le suicide, le mal-être, le non-sens d'une vie. C'est les années 60-70. Donc, je récapitule, vous prenez des gens avec plein de catégories sociales confondues qui vont se mettre à bouger et à agir dans des associations diverses et variées, qui sont en manque de racines et en manque de repères. Hein, c'est le rejet de la société de consommation après. Et vous prenez ces personnes-là, vous avez donc c'est le deuxième ingrédient, et par-dessus ça, vous mettez quelque chose que l'on ne connaît plus aujourd'hui, qui est une espèce de sécurité matérielle absolue. Si vous voulez, le destin de l'humanité, c'est de passer d'une guerre à l'autre pendant près de 2 millénaires. En gros, la probabilité pour qu'une personne traverse des pénuries, la misère, la mort, etc., jusqu'à après 45, était quand même extrêmement forte. Il y a quand même une première guerre mondiale à 14-18, une autre en 39-45, des petites choses au milieu, une crise économique dans les années 30, enfin je ne sais pas si vous voyez quoi. Et depuis des siècles, l'être humain est en situation de survie quand même permanente. À partir de 45, pour la personne qui vit dans l'univers occidental de ces banlieues, la vie est un long fleuve tranquille. Le travail est assuré, les revenus sont assurés, la nourriture est assurée, le devenir des enfants est assuré. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour rien. Et ça, voyez-vous, ça pose un léger problème. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les êtres humains, les êtres vivants, pour se reproduire, quand on a affaire à des métazoaires comme nous, hein, donc des animaux à plusieurs cellules, s'est mis en place une forme de reproduction qui est la reproduction sexuée. Ça permet de se reproduire avec des relations sexuelles. Et il se trouve que ces relations sexuelles présentent l'avantage non négligeable de donner du plaisir. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est fait, d'ailleurs. Si ça ne donnait pas du plaisir, ça se ferait moins souvent, et en termes biologiques, il y a 2 millions d'années, ce serait moins efficace. Heureusement, l'être humain est un animal social, et actuellement, à chaque fois que les gens ont des relations sexuelles, c'est heureusement pas pour avoir des enfants, mais pour prendre du plaisir. Ça veut dire que ce besoin-là est un besoin qui est ancré en nous. Et une personne qui, en devenant adulte, n'a pas de relation de ce type pendant des années et des années, risque fort de développer, je dirais, une petite névrose. Vous voyez, il risque pas aller très très bien. Écoutez, ce qui marche avec les relations sexuelles marche aussi avec d'autres choses. Ça marche aussi avec la peur. C'est-à-dire, si vous prenez une population qui a l'habitude pendant des millénaires d'avoir peur, et la peur, vous savez, c'est de l'adrénaline qu'on a là, qui est sécrétée par des mélules surrénales, des corticaux surrénales, qui vont nous permettre que le cœur aille plus vite, que la respiration aille plus vite, et que donc on se défende à l'égard d'agressions extérieures. Le stress, c'est ce qui permet de combattre un ours des cavernes, c'est ce qui permet de courir plus vite, c'est ce qui permet de réagir plus rapidement. C'est comme le plaisir sexuel, ça. C'est engrammé en nous depuis des millénaires. Vous prenez une population qui, tout à coup, pendant des années et des années et des années, n'a plus besoin d'avoir peur. Elle n'a peut-être plus besoin d'avoir peur, mais je dirais, elle a quand même envie d'avoir peur. Vous voulez une preuve? Réfléchissez un peu. Il faut quand même être assez taré pour accepter de mettre 8 à 10 euros dans un film dans lequel on va flipper comme un malade pour ne pas dormir la nuit. Si c'est pas qu'on a envie d'avoir peur, c'est quoi? Pourquoi les gens vont faire des films d'horreur? De voir des films d'horreur. Pourquoi est-ce que on se met dans des situations qui sont des situations de risque ou de peur? Et d'ailleurs, comme on dit, ça déchire. Ça déchire quoi? Si ça déchire, c'est qu'on a ce besoin d'avoir cette peur. Donc les personnes à l'époque sont dans cette espèce de manque d'alimentation pour la peur. L'atmosphère de 60-70 est bien rendue dans la série Mad Men. Vous avez ces gens qui s'ennuient profondément. Donc vous imaginez dans notre univers, 60-70, ces personnes qui commencent à s'organiser ensemble dans un moment magique où il y a un peu de mixité sociale, parce qu'auparavant c'était un mythe et actuellement, il ne faut pas rêver, il n'y en a pas des masses non plus, donc avec un pouvoir d'action, qui manque de repères, ils ne retrouvent plus les repères qui étaient ceux de leur vie, et qui en même temps ont besoin d'alimenter leurs propres angoisses. Vous diriez peut-être de se faire leur film, de se faire un cinéma. Et vous avez les ingrédients qui conduisent dans les années 70, concomitamment à d'autres phénomènes tels que les révoltes des années 68 qui débouchent sur des gens qui veulent faire la révolution dans leur tête, peu importe, qui débouchent sur le besoin de mettre un intérêt pour l'environnement. L'intérêt pour l'environnement, il vient de là. Que disent les gens dans les années 70, 71, 72 ? Que la planète va mal, que les repères ont foutu le camp, qu'il y a un danger. Ce danger peut être atomique, ça peut être ce qu'on mange, ça peut être la qualité de l'air, et que pour ça, il faut s'organiser. C'est un moment exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Et ça explique pourquoi, pendant des centaines d'années, alors que les conditions de vie étaient parfois beaucoup plus dramatiques, et les contraintes environnementales et les destructions environnementales beaucoup plus fortes, ces mouvements n'ont pas apparu. Donc, ça vous situe un petit peu quelque chose qui est important, c'est l'aspect politique. Je parlais de l'iceberg tout à l'heure. Ce n'est pas pour rien que dans les années 70, des mouvements environnementalistes apparaissent. Et donc, la critique qu'ils vont avoir vis-à-vis de la société dans laquelle on vit est une critique qui est une critique fondamentale, puisque ce qu'ils remettent en cause, ces mouvements à l'époque, c'est nos modes de vie et nos modes de production. Et donc, on va voir... Santé. Et donc on va voir apparaître dans cette époque, concomitamment à ce truc du style on voudrait vivre dans un bon milieu avec une nature agréable, etc., une critique de la société et une critique des modes de production. Et ces mouvements environnementalistes, ils vont petit à petit gonfler. Et donc on va arriver, je passe sur les détails, vous les connaissez tous, et on va arriver autour des années 82-83. Là encore, je vais vous donner la partie immergée de l'iceberg. 82-83, voyez-vous, c'est une époque importante. Parce que tout à coup, les mouvements environnementalistes, écologistes, qui se sont structurés en mouvements politiques, font leur entrée en Allemagne au Bundesrat. Et à cette époque-là, on a la guerre froide qui est encore là. Et en particulier... Les soviétiques donc à l'époque et les américains se confrontent les uns aux autres de l'autre côté du rideau de fer de l'Allemagne. D'un côté, les américains veulent mettre en place des fusées Pershing qui sont censées être une espèce de bouclier antimissile pour les fusées soviétiques, et les soviétiques aussi veulent mettre de leur côté ce qu'ils appelaient des SS-20. Et c'est donc dans ce conflit de montée de tensions nucléaires, enfin pas nucléaires, mais montée de tensions militaires, que tout à coup les Verts allemands, qui étaient rentrés dans le Parlement, défilent avec le slogan plutôt rouge que mort et s'opposent à la mise en place des fusées Pershing sur le territoire allemand. Et donc tout à coup, ce qu'on pourrait appeler les pouvoirs constitués dans le monde occidental considèrent que cette question environnementale, en plein contexte de guerre froide, vous voyez, c'est vraiment le côté immergé de l'iceberg, est une menace, est une espèce de top et quelque chose qui peut nous affaiblir. Et donc, dans ce contexte-là, l'ONU va donc mandater la première ministre norvégienne de l'époque, qui était Gro Harlem Brundtland, avec une mission très très précise. Le message y est très clair. Il est de dire, voilà, comment est-ce que l'on pourrait prévoir un développement respectueux de l'environnement, qui répondent aux préoccupations environnementales des gens et qui permettent aux générations futures de vivre correctement, et un développement de ce type qui ne remette pas en cause nos manières de vivre et nos manières de fonctionner. Donc qui ne remette pas en cause nos modes de société, démocratique, libéral, machin, etc. C'est ça le message qui a été émis à Gro Harlem Brundtland. Et donc à la tête d'une commission, elle va bosser pendant 4 ans là-dessus. Et en 1987, elle va donc produire un document qui s'appelle Our Common Future, ce qui veut dire notre futur commun, et qui est le livre du développement durable. Alors j'ai mis du temps pour en arriver là, mais c'est important, parce que ça signifie trois choses. Le développement durable, comme les questions environnementales, sont par essence politiques. Méfiez-vous comme la peste des gens qui, dans un sens ou dans l'autre, hein, vous présentent ça comme un truc naturel, avec des petits oiseaux, avec des petites fleurs, avec des jolis animaux. Non, c'est des sociétés qu'il s'agit. Pour qu'il y ait un environnement, il faut qu'il y ait des gens à environner. Et ces gens, c'est vous. Si on est tous morts, il y aura toujours la Terre qui fonctionnera avec des écosystèmes. Seulement, nous ne serons pas environnés. Donc le choix de savoir ce qui est... Nous ne serons pas à l'intérieur. Donc, le choix de savoir si c'est... telle option ou telle autre qui vaut le coup, c'est un choix politique. Vous voulez un exemple ? Très simple. Je vous propose d'enregistrer le bruit au-dessus du boulevard périphérique à Paris. Et je vous suggère d'enregistrer exactement le même bruit au cœur de Manhattan. Et vous allez vite vous rendre compte de quelque chose. C'est exactement le même bruit. Le nombre de décibels est exactement le même. La contrainte environnementale, le bruit entendu, est le même. Mais il n'est pas perçu pareil. Si vous êtes au-dessus du périphérique, sur une espèce de maison toute pourrie, Eh bien, vous avez considéré que ce bruit est le signe, le stigmate, la signification du fait que vous êtes déclassé socialement et que vous vivez dans de mauvaises conditions de vie. Mais si vous avez le bruit, le même bruit, Emanatn, alors vous allez payer ça très cher. Pourquoi ? Parce que ça voudra dire que vous êtes dans le buzz, que vous êtes au cœur du monde, que ce bruit représente... Et là, c'est plus du tout une nuisance. Les gens le recherchent. C'est le même bruit. Vous voyez bien, c'est un choix politique. Sur une commune de la région parisienne, que je ne nommerai pas, par gentillesse, la municipalité avait choisi d'éclaircir avec des détergents divers et variés l'eau, vous voyez, détergents pour piscine, l'eau d'un lac artificiel, parce que lorsque le lac était en son état naturel, c'est-à-dire avec quelques algues à l'intérieur, les gens trouvaient que ça faisait sale. Donc, le lac a été éclairci et tout le monde a trouvé que c'était un lieu beaucoup plus propre et beaucoup plus naturel. Ouais, enfin, le problème, c'est que c'était bourré de détergents, quoi. Vous voyez ? Donc, méfiez-vous de tous ces discours qui présentent la nature et l'environnement comme quelque chose de factuel, qui n'a pas besoin d'être interprété, qui n'est pas discutable. Tout est discutable. Deuxième chose, sur la question de l'environnement et du développement durable. On vous présente le développement durable, très souvent, comme étant dans la continuité des politiques de l'environnement, dans la continuité de ce qu'il y avait auparavant. Je vous le dis clairement, c'est faux. Le développement durable, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est le contraire. C'est une cassure par rapport aux politiques de l'environnement qu'il y avait auparavant. C'est une manière, à partir de 87, de dire ce que proposent les préoccupations environnementales préalables, c'est une remise en cause de nos modes de vie et de nos sociétés. Eh bien nous, on prend la main et on propose de ne pas les remettre en cause tout en s'adressant aux problèmes techniques, écologiques, environnementaux qui se posent. Donc c'est pas du tout une continuité. Alors pourquoi est-ce que c'est présenté comme ça chez les trois quarts des gens ? Ben, pour des raisons très simples. Les mouvements environnementalistes qui existaient auparavant, ben, ils se sentent un peu avec l'herbe coupée sous les pieds quand même en 87. Donc ils réagissent de manière assez simple en phagocytant ce qui apparaît et en orientant le développement durable vers des préoccupations uniquement environnementales. Et du côté à l'inverse de ceux qui vont faire ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte de mettre du développement durable partout, vous voyez, même dans les yaourts. Pour cela, il est bon également de revendiquer une histoire et d'intégrer les problèmes environnementaux dedans, parce que ça veut dire qu'il y a une certaine épaisseur historique, que ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc les deux ont intérêt à faire semblant qu'il n'y a aucune rupture et aucune cassure entre les politiques de l'environnement telles qu'elles étaient avant les années 84-85 et le développement durable. En fait, il y a des grands écarts entre les deux. Alors, si on donne une définition du développement durable avec ce préambule un peu long, je peux vous donner la définition du développement durable classique. Elle ne va rien nous apporter, mais il faut quand même la donner parce que sinon, c'est un mode de développement qui est supposé permettre aux générations à venir d'hériter d'une planète et de ressources leur permettant de vivre dans les mêmes conditions que les générations actuelles, tout en préservant nos modes de vie. Vous remarquerez qu'il y a là-dedans des choses qui sont assez bizarres. Enfin, moi, je travaille sur le développement durable, c'est-à-dire que je pense que c'est un concept intéressant. Hein. Sinon, on aurait fait une conférence sur la gestion de l'environnement. Donc, je ne suis pas neutre, hein. Je prends parti là-dedans. Je suis quand même favorable au développement durable. Ceci dit, j'aime bien l'amour vache, n'est-ce pas ? Donc, quand on aime bien quelque chose, il faut savoir le critiquer. Donc, le développement durable, dans cette définition que je viens de donner, il y a des choses qui sont un peu étranges. Par exemple, le mot « développement ». Vous voyez ? Le développement, vous en entendez partout. Si je vous pose la question, pour vous, c'est quoi le développement ? Ça m'intéresserait qu'il y ait quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a une réponse à cette question ? Le développement, c'est quoi ? Et vous avez le droit de parler une fois, une personne qui a envie de me dire ce que c'est que le développement. Vous ne bousculez pas, hein. Ben. Oui, évolution. C'est une bonne définition. Non, non, c'est une bonne définition. Je m'attendais à beaucoup, beaucoup pire. Je trouve que c'est bien. Je ne sais pas qui c'est qui l'a dit. Parce que, bravo, parce que dans évolution, il y a l'idée de quelque chose qui se transforme. En gros, le développement, c'est quand on a une transformation structurelle. Pour un économiste, c'est lorsque la structure de l'économie va se modifier. Pour, par exemple, en embryologie, chère biologie, le développement humain, ça va être le développement de l'embryon, ou ça va être le développement à l'adolescence, lorsque tout à coup vous avez les caractères distinctifs qui vont pousser, les seins, les poils, ou lorsque l'entreprise va modifier ses modes de comportement. Il y a des gens qui sont dans les transports ici. Si vous faites du développement, vous allez modifier la structure de votre entreprise, passer au juste à temps, gérer des flux zéro, des flux tendus, que sais-je. Vous allez modifier votre mode de fonctionnement. Si vous vous contentez de croître et de prospérer, alors vous n'êtes pas dans du développement. Vous êtes dans ce qu'on appelle de la croissance. Donc, il y a quand même quelque chose de paradoxal si l'on ne veut pas modifier les modes de, les manières de vivre de nos sociétés, à parler de développement durable. Parce qu'en réalité, on veut que ça se développe, donc que la structure change, tout en ne changeant pas. Il y a un petit problème, vous voyez. Alors, ce qui se passe en général, c'est que par développement durable, les trois quarts des personnes entendent croissance durable. C'est-à-dire continuer sur les trajectoires de croissance qui sont les nôtres, en espérant que ça puisse durer. Mon sentiment est quand même qu'on est relativement loin du compte. La deuxième remarque que je ferai là-dessus, c'est que conserver nos modes de production et nos manières d'être, c'est bien. Mais je ne suis pas sûr qu'en Chine, en Inde, en France, aux États-Unis, au Mexique, en Algérie ou au Brésil, les modes de fonctionnement soient les mêmes. Donc, dans la mesure où on veut conserver quelque chose dont on ne sait même pas ce que c'est, ça va vite devenir compliqué. Voyez. Donc, ça fait ces deux éléments qui me paraissent relativement importants. Vous avez la définition du développement durable. Et en règle générale, ce qu'on vous sert juste après dans ce développement durable, si vous vous rappelez, c'est trois espèces de sphères. Vous les avez vues, ces trucs, hein. On dirait un machin ésotérique, là, Wiccan. Vous avez société, environnement, économie. Vous avez déjà vu ces trucs-là? Vous avez déjà vu ces trois cercles avec, au milieu, vous avez une espèce d'intersection et on dit que le développement durable, c'est entre à l'intérieur de ça? Bon, alors pour ceux qui n'ont pas vu, on va faire vite. En gros, dans le développement durable, on considère que pour maintenir ces choses-là, il faut agir sur trois sphères. Sur l'économie, sur l'environnement, au sens biologie, physique, qualité de l'air, etc. Et sur la société, sur les relations sociales. Et que c'est en jouant simultanément sur les trois que l'on va réussir à rendre le monde dans lequel on vit plus durable. Alors, C'est un peu compliqué parce que assez rapidement, alors si vous ne l'avez pas vu, c'est plus compliqué, assez rapidement, on est arrivé à faire trois sphères, on les voit partout, c'est dommage, j'aurais pu les... Vous voyez, trois sphères comme ça, et ça donne l'impression que l'on pourrait s'attaquer à l'un sans s'attaquer à l'autre, que l'on pourrait faire du social sans faire de l'économie, ou qu'on pourrait faire de l'économie sans faire de l'environnement. C'est totalement stupide. Enfin, je ne vois pas comment une décision économique n'aurait pas de conséquences en termes de société, ne serait-ce qu'à travers l'emploi. Je ne vois pas comment des contraintes environnementales de bruit, d'odeur, de produits toxiques, etc. n'auraient pas des conséquences sur la société. Regardez le Japon, vous comprendrez vite. Je ne vois pas très bien comment, etc. Donc, le fait de distinguer les trois et de les séparer est une gigantesque aberration qui entraîne un certain nombre d'acteurs publics, souvent politiques, quand on fait du développement durable, à en fait travailler sur ce qui est le plus pratique, c'est-à-dire l'environnement, ça c'est facile à voir, en prétendant travailler sur les trois à la fois. Mais comme vous n'en avez pas entendu parler, il n'y a pas de problème. Okay. Mais donc, il faut travailler sur les trois à la fois, sur ces trois sphères aussi. Donc, la deuxième chose, la dernière chose aussi dans cette définition du développement durable. L'idée, on peut traduire ça autrement, c'est qu'on va favoriser, il faut que ce soit un développement qui permette d'avoir à la fois le présent et l'avenir. Donc c'est ce qu'on appelle l'équité spatiale et l'équité intergénérationnelle. Qu'est-ce que c'est? Vous savez un synonyme du mot équité? Vous en connaissez un? L'équité, c'est quoi? Allez, un synonyme. Un truc qui veut dire la même chose. Ouais, excellent, c'est exactement ce qu'il fallait pas dire, bravo. Alors, si je récapitule. Non, mais c'est bien de le dire, parce que je pense qu'il y a 90% des gens qui le pensaient. Donc, l'avoir dit, c'est bien. L'égalité, non. Bon, je vais dire pourquoi c'est pas ça, parce que sinon je pourrais aussi vous raconter des cracks. C'est pas l'égalité, parce que regarde, équité, le mot équitable, et ça vient d'équité. Un procès équitable, c'est pas un procès dans lequel la victime et l'accusé écopent de la même peine. Un procès équitable, c'est un procès dans lequel celui qui a fait un truc est puni et celui qui a pris quelque chose de pas bien est dédommagé. Donc c'est pas l'égalité absolue. L'équité, c'est le synonyme de justice. On pourrait transposer ça en parlant de justice spatiale et de justice intergénérationnelle. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte qu'il y ait une justice, ici et maintenant, aujourd'hui, dans la répartition des ressources et dans l'utilisation de la planète, et que cette justice se retrouve dans les générations à venir. Ok ? Ça, c'est un petit peu la clé du développement durable. Alors, juste pour préciser deux ou trois petits points, je regarde l'heure, parce que, comme je travaille sans filet, ah ouais, ça va vite quand même, hein ? Oula ! C'est pas grave. Donc, pour reprendre un petit peu l'histoire du développement durable, je voudrais juste mentionner deux petites choses, avant de passer à la suite. La première chose, si vous remarquez, c'est que je vous disais tout à l'heure que ces questions ne datent pas d'aujourd'hui. La question du développement durable ne date pas d'aujourd'hui. Tout le monde connaît l'histoire de l'île de Pâques. Donc, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous la resservir. S'il y en a qui n'en ont pas entendu parler, demandez-moi là au moment des questions. Mais il y a des civilisations entières, beaucoup plus proches de nous, qui ont disparu très probablement à cause d'une gestion cataclysmique de l'environnement. Et vraiment, l'île de Pâques est un cas très particulier, parce que c'est une île, voyez-vous, et on a des choses assez singulières. Par contre, si vous prenez la civilisation sumérienne, vous savez ce que c'est la civilisation sumérienne? Vous savez où elle est? Où elle était? Alors écoutez, c'est un truc qui nous met 4000 ans dans les dents, à peu près, hein, on est vers moins de 2000-2500, et ça se situe entre le Tigre et l'Euphrate, là où il y a l'Irak actuellement. La civilisation sumérienne est une civilisation importante, hein, puisqu'une part de l'écriture, etc., vient de là-bas. C'est pas très très loin de nous, culturellement, puisqu'on est un peu en héritage de tout ça. Et à Sumer, il y avait ce qu'on appelle des cités-états. C'est-à-dire que les villes étaient les états des hommes qui étaient autour d'elles. Et elles présentaient la particularité, comme quoi ça date pas d'aujourd'hui, d'être en permanence en guerre les unes avec les autres. C'est la forme de sport local, c'est de se taper dessus. Et il se trouve qu'un nerf de la guerre, c'est l'alimentation. Et pour ça, bien entendu, il fallait irriguer. On est dans des zones qui sont à la fois avec de l'eau, mais qui spontanément, il faut l'amener dans les champs, quoi. En fait, une des manières de faire la guerre, économiquement, était pour les villes qui étaient situées en amont, de détourner l'eau ou de récupérer l'eau et de bloquer les accès des villes qui étaient en aval. Du coup, on a eu, au fur et à mesure, pendant ces guerres, une espèce de manipulation et d'instrumentalisation de la ressource en eau, chacun essayant d'en prélever le plus possible, d'une part pour alimenter sa population et ses troupes qui croissaient de manière exponentielle, d'autre part pour en priver le voisin. Ça se traduisait par des phénomènes d'inondation volontaire des champs. C'est-à-dire qu'on déviait l'eau et on inondait, on irriguait par inondation. L'eau ensuite allait filtrer à travers le sol et puis allait se perdre. Or le problème, c'est que dans cette zone de la planète, le sous-sol relativement profond est saumâtre. Et donc les remontées, en plus avec l'évaporation, les remontées d'eau étaient des remontées saumâtres qui mettaient une espèce de croûte saline au-dessus de la Terre. Et petit à petit, la Terre n'a plus été capable de produire les céréales qui étaient produites au départ. On a produit des céréales plus tolérantes au sel, puis de plus en moins tolérantes, et à la fin, on a eu vraiment des situations de famine très très importantes. Et on peut considérer qu'une part de la chute de la civilisation sumérienne est lié à l'épuisement de l'environnement. C'est intéressant quand même, non? Donc, on est quand même 4000 ans en arrière, c'est pas aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que non, l'être humain moderne n'est pas un méchant et les autres n'étaient pas tous des gentils. L'être humain est l'être humain. Et quelles que soient les possibilités qu'il a, il va pouvoir faire des trucs très bien ou des trucs épouvantables. Il n'y a pas d'âge d'or. Hein. Et en gros, pour la mise en œuvre du développement durable, c'est demain que ça se passe. Ce n'est pas une référence au passé qui va nous aider à vivre mieux. Autre chose aussi, toujours le deuxième exemple, je vais vous la faire quand même, l'île de Pâques, parce qu'on a tendance à voir, c'est vrai que l'image est un petit peu simpliste. Sur l'île de Pâques, on nous dit, eh bien voilà, les gens ont épuisé leur environnement, ils ont épuisé les ressources de l'île. Certes, ça vous l'avez déjà vu dans toutes les pubs EDF, hein. Mais on ne nous dit pas que ça. On ne nous dit pas comment est-ce que ces ressources ont été épuisées. Et là, on a des surprises. En gros, l'île de Pâques était couverte d'une végétation qui n'était pas très variée, mais qui était par contre extrêmement abondante et facile à récupérer. Les Polynésiens qui sont arrivés sur cette île les premiers ont amené avec eux également des poulets. Ils pouvaient pêcher des animaux marins. Et donc, en gros, on était dans une civilisation de loisirs. Il y avait beaucoup, beaucoup de temps libre pour les populations qui étaient là-bas. Le résultat de ça, c'est que c'est mis en place, pour éviter les conflits, contrairement aux civilisations sumériennes, une pratique qu'on a appelée dans d'autres cieux, un mec qui s'appelle Maus l'appelle comme ça, le don contre don. On appelle ça le potlatch. C'est-à-dire, en gros, pour éviter d'être en guerre avec mon voisin, parce que je suis gentil, n'est-ce pas ? En fait, je vais lui faire un cadeau. C'est un signe d'alliance. Et lui est censé me faire un cadeau en retour, qui est censé être aussi important que mon cadeau, ou un petit peu plus, pour marquer à la fois son respect, et pour marquer à la fois son acceptation de la paix et de l'alliance entre nous. Vous comprenez vite comment ça marche. À chaque fois, l'enjeu devient de plus en plus plus important, et le cadeau de plus en plus somptueux. Et donc, évidemment, si je ne réponds pas au cadeau, c'est une insulte. Évidemment, ça peut déclencher une guerre. Donc, dans une société profondément pacifique, eh bien, on va faire du don contre don et don contre don, comme ça, des cadeaux de plus en plus somptuaires, en se payant sur les ressources de l'endroit. Par exemple, les canoës de prestige, les pirogues de prestige, sont utilisés à partir du bois de l'île de Pâques. Par exemple, on va, parce qu'on trouve ça également sur la côte nord-américaine, nord-ouest américaine, un certain nombre de tribus, on va finir par offrir tout son bétail, on tue tout et puis on le donne. Et donc on arrive à une espèce de démesure dans le don et le contre-don qui finit par épuiser complètement la culture de ce pays sans l'ombre d'une guerre. Et donc c'est un peu comme ça, très certainement, que l'île de Pâques s'est épuisée. Elle ne s'est pas épuisée en guerre. Elle s'est épuisée en cadeau contre cadeau dans des pratiques de potlatch. Vous voyez, les Polynésiens sont peut-être très cool, mais le résultat à l'arrivée est le même. Ça pose quand même un certain nombre de questions sur la bonne gestion des ressources. C'est pas si simple que ça. Il n'y a pas les bons et les méchants. Je dois rajouter quand même que si je fais une analogie qui est peut-être un peu osée, mais je trouve que on pourrait peut-être faire un parallèle entre ces logiques somptuaires de dons et de contre-dons et la multiplication de conférences internationales qui servent essentiellement à montrer la puissance de celui qui peut inviter l'autre en mettant un maximum de pognon sur le tapis et en faisant un maximum d'événements visibles. Et plus je suis riche, plus je suis puissant, plus j'accueille, plus j'offre et plus je montre que je le suis. Les résultats sont quand même, à mon avis, à long terme, un petit peu les mêmes. Vous voyez ? Alors, si je, parce que le temps passe et qu'il est déjà quand même 23, que je suis un gros bavard, on va essayer d'avancer un petit peu. J'espère que vous voyez donc, d'une part, pourquoi le développement durable est arrivé quand il est arrivé, la partie cachée. Vous voyez également les clés quand même du développement durable, équité spatiale, équité intergénérationnelle, pas de remise en cause de nos modes de fonctionnement et de nos modes de consommation, une préoccupation pour l'environnement qui n'est pas limitée à l'environnement, l'eau, l'air, etc., puisque c'est des choix politiques, et on a vu que le bruit, ben, ou l'eau, peut donner des interprétations différentes, de la manière dont on les voit. Alors, ensuite, il y a, dans le développement durable, pour voir quelles sont les difficultés à le mettre en œuvre, parce que le but en 45 minutes, pour moi, ça ne peut pas être de vous donner des réponses. Le but dans 45 minutes, c'est certes de vous en donner quelques-unes pour que vous sachiez où vous êtes et comment vous avancez, mais surtout vous amener à vous poser des questions, c'est quand même le but du jeu. Hein. Si je suis arrivé à ça, si vous m'embergez un peu là-dessus, je suis content. Bon, ce sera plus intéressant que de vous donner un truc tout fini. Alors je vais vous parler des contradictions que moi je vois dans le développement durable. Il y en a trois. Qui sont des contradictions structurelles. Qu'est-ce que je veux dire par contradiction structurelle? Je veux dire que c'est des choses qui ne sont pas des accidents de parcours. Ce n'est pas juste quelque chose qui... Ah ben oui, on va le réparer avec une rustine, quoi. C'est des problèmes qui sont au cœur même du développement durable, qui posent un véritable problème de fonctionnement. Pour prendre une image sportive, hein, dans un club de foot, ce n'est pas remplacer tel joueur par tel joueur. C'est carrément tout le schéma de jeu, quoi. Voyez, donc c'est quelque chose qui touche vraiment à la réalité de l'ensemble du développement durable. Alors, ces trois contradictions internes qu'il faut résoudre, que nous essayons de nous employer à résoudre en recherche, mais ce n'est pas gagné, sont les suivantes. Alors la première, je vais vous la faire courte là aussi en prenant le terme de développement durable. C'est plus facile à comprendre comme ça. En fait, le terme de développement durable est une contradiction en soi. Si vous vous rappelez, je vous ai dit que le développement, c'est une modification de structure. Vous en rappelez? Bon. Mais si ça dure, c'est que ça reste pareil. Expliquez-moi comment on peut modifier quelque chose en le laissant pareil. Moi, je ne sais pas. Dans les années 70 aussi, il y avait un gars qui s'était fait élire avec un slogan qui était « Le changement dans la continuité ». On s'est pelé après pendant 7 ans, et je vous assure que ce n'est pas la fête. Hein. Parce qu'un slogan pareil, ce n'était pas forcément très réel dans ses applications concrètes, c'est le moins qu'on puisse dire. Un poil contradictoire. Ou alors c'est peut-être la révolution permanente aussi, chez Mao, où effectivement on change tout le temps et c'est ça qui dure, je ne sais pas. En tout cas, on voit bien qu'il y a un vrai problème. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui change tout le temps et qui ne change pas? C'est curieux quand même. Alors, vous allez me dire que je joue sur les mots. Non. Parce que derrière, ça c'était pour faire sentir le truc, mais derrière il y a quelque chose de plus important. C'est que dans la durabilité, on a la notion de croissance. C'est-à-dire on donne l'impression, et je ne dis pas que c'est bien ni que c'est mal, c'est juste qu'il y a une contradiction. On considère que la trajectoire de croissance dans la consommation et la production qui est la nôtre peut se perpétuer dans le temps. Et quand on parle de développement, on parle de modifier justement cette structure. Et c'est la raison pour laquelle, parmi les gens qui travaillent sur le développement durable, on trouve à la fois et côte à côte des gens qui vont prôner la décroissance et d'autres qui vont prôner, par exemple, l'avènement d'écotechnologies vertes avec une modification à la marge de nos modes de consommation. Et forcément, ces deux groupes de personnes ont beaucoup mal à se causer ensemble parce qu'ils ne parlent pas de la même chose. Ils utilisent les mêmes mots, mais ils ne parlent pas de la même chose. Et tant qu'on en est là, on va avoir du mal à se comprendre. Je suis sûr que même vous avez dû avoir tout un tas de cours sur le développement durable à gauche à droite parce que c'est à la mode. Vous avez différents professeurs. Et je suis sûr, et c'est normal et c'est humain, que les uns et les autres ont des points de vue différents. Donc ils vous servent des discours différents. Et vous, à la fin, vous vous grattez la tête en vous disant c'est lequel le bon. Et bien je vais vous dire une réponse. Aucun. Ou plutôt, ils sont tous aussi bons. C'est simplement l'angle d'optique qui est différent. Or, si on veut vraiment construire quelque chose qui tienne la route, il faudrait quand même qu'on se mette d'accord sur ce dont on parle. Et donc, c'est un vrai problème. Le développement durable, il y a une contradiction même dans les termes. Et bon, il va falloir quand même essayer de se mettre d'accord sur l'objet dont on parle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors c'est des choses un peu compliquées, mais en les présentant, on peut les comprendre facilement. C'est l'histoire des échelles. Vous avez déjà entendu ce terme. Dans le développement durable, il faut penser globalement et agir localement. Vous avez déjà entendu ça? Certains ont dû l'entendre. Alors, ça part de l'idée, écoutez, moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression d'être dans une espèce de grand mécano planétaire, vous voyez, une espèce de machine, vous voyez, où je vais tourner une espèce de rouage en haut, et ça... Et puis à la fin, une crotte qui va tomber, vous voyez, de manière complètement mécanique. Et bien là aussi, je vais vous révéler un secret, ça ne se passe pas comme ça. Alors, je vais vous faire une expérience très simple que vous allez comprendre. Assez facilement. Imaginez que vous êtes à Lille, dans une grande place à Lille. Dites-moi une place lilloise sympa. La Grand Place. Vous êtes tranquillement installé dans la Grand Place, un beau jour du mois de juin, par exemple, assis à un café avec des potes, en train de boire un verre de ce que vous voulez, un coquin, une bière, je ne sais rien, c'est pas le problème. Vous êtes à cet endroit-là et vous avez des relations avec les gens autour de vous. Vous avez des relations avec vos copains à la table, avec le serveur qui vous a ramené les bières, avec qui vous, à qui vous a, ou le coca ou j'en sais rien, à qui vous allez payer, donc vous avez une transaction. Vous avez une vision des distances dans l'espace et vous vous situez là-dedans. Vous êtes donc dans cet espace avec des interactions que je qualifierais d'interactions d'une... Enfin, je ne vais pas utiliser métrique euclidienne, avec des distances, des relations, allez, on va dire rationnelles, d'accord, celles que vous avez l'habitude d'avoir, où vous raisonnez sur le monde, vous voyez où vous êtes, vous voyez où vous êtes, hein, vous êtes dans cet espace. Maintenant, vous avez un géant qui arrive avec ses mains, et il vous chope par ici, là, par là, il vous tire en l'air, et vous voyez dans le genre Google Maps, vous vous élevez dans les airs. Au fur et à mesure, vous avez la place de l'île qui devient de plus en plus petite. Elle ressemble à un point. Et puis après, vous voyez le plan de l'île, et vous avez cette place qui est en bas, elle est toute petite, elle est minuscule, c'est plus du tout un espace. Ok ? C'est quoi ? Est-ce que c'est un point ? Ben, c'est pas un point. Puisque dans un point, soit il y a un point, soit il n'y a rien, mais là, il y a plein de gens qui sont assis. Il y a des pigeons. Je ne parle pas des consommateurs. Hein. Il y a des pigeons. Il y a des tables. Il y a des bocs de bière. Enfin, il se passe quelque chose là-dedans. C'est pas un point. On va dire que c'est un lieu. On est dans du local. Donc vous voyez, c'est du local. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce local? Qu'est-ce que vous voyez à cet endroit-là? Vous allez me dire, vous ne voyez rien parce que vous êtes trop haut. Mais vous savez, vous avez des gens qui sont là. Et ce que vous voyez d'eux, ce n'est plus la distance. Ce n'est plus que vous allez payer votre boc de bière, ni que vous allez aller aux toilettes, ni que vous allez appeler votre copain qui traverse. Vous n'êtes plus dans cet espace-là. Vous savez qu'à cet endroit-là, il y a des gens qui sont ensemble. Et ils sont ensemble parce qu'ils savent que la Grand Place est un endroit où on se retrouve. Parce qu'ils ont des affinités. Parce qu'ils se sentent lillois. Parce que c'est le week-end et qu'ils sont en vacances. Que sais-je ? Vous avez des liens qu'on va appeler des liens forts. Des liens qui ont dit, techniquement, qu'on a une co-spatialité. Des gens qui partagent le même espace. Ils font lieu ensemble. Ils représentent une mémoire de cet endroit-là. C'est ce qui fait qu'ils sont ensemble ici plutôt que là. C'est la différence entre la Grand Place à Lille et la même chose à la place Grenette à Grenoble, par exemple. Donc, vous avez quelque chose qui est spécifique. Vous voyez, c'est le même endroit. Auparavant, c'était un espace. Maintenant, c'est un lieu, mais c'est la même chose, rigoureusement la même chose. Lorsque vous essayez de penser globalement et d'agir localement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez avoir des grandes mesures, agenda 21, pensées au niveau de la planète entière, et vous allez les reproduire dans un agenda 21 local, dans un espace qui est supposé être local. Le problème, c'est que si vous avez bien écouté ce que je viens de vous dire, ce local, il n'est pas plus local que pas local. Ça dépend comment on le regarde. Bah oui, si vous êtes dedans... Si vous êtes dedans, il y a de la place, hein, au tout autour. Donc, vous allez essayer d'appliquer des recettes qui sont des recettes rationnelles. Et vous savez ce qui se passe quand vous allez appliquer ces recettes rationnelles? Eh bien, vous allez avoir en face des gens qui ne sont pas rationnels. Vous avez des gens qui vont faire lieu. C'est-à-dire que ce qui va faire qu'ils sont ensemble, c'est les relations qu'ils ont ensemble. Et ça va être les égoïsmes. Vous allez être dans une commune et vous allez avoir des règlements de compte entre l'opposition et la majorité. Et vous allez avoir le gars qui a sa maison, qui est ennemi du voisin et qui va faire tout son possible pour que la ligne EDF passe chez lui et pas chez vous. Et vous allez avoir le râleur patenté. Et vous allez avoir des haines recuites. Et vous allez avoir des choses qui font que ces gens vivent ensemble dans leur village depuis que ce temps et qu'ils font lieu. Et lorsque vous allez essayer d'appliquer bêtement vos pratiques normatives avec la règle 1, règle 2, règle 3, règle 4, eh bien vous allez vous planter. Parce que vous n'avez pas affaire à des êtres rationnels, même s'ils sont rationnels par ailleurs, mais que localement vous avez affaire à des êtres qui sont mus par des émotions, par des affects, par des envies, par des choses cachées. Or, dans le développement durable, on ne sait pas encore traduire les désirs d'action au niveau global par une efficacité d'action au niveau local. On ne sait pas encore comment prendre en charge tous ces égoïsmes, tous ces localismes, tous ces trucs. On ne sait pas comment les traduire. Et c'est un vrai problème. Les trois quarts des trucs qui se plantent sur cette base-là. C'est la même chose, c'est pas spécifique au développement durable. Ceux qui sont ici en logistique ou ailleurs, dans une entreprise, il suffit pas de dire ce qu'il faut faire. Il y a aussi une atmosphère à créer, ça se fait pas tout seul. C'est-à-dire, il y a aussi quelque chose qui lie les gens ensemble. Les gens qui, encore une parabole de foot, là, les gens qui ont assisté à la déculottée de l'Afrique du Sud se rendent bien compte qu'il ne suffit pas de jouer. Il faut aussi faire un poil de ciment et un peu de compréhension entre les gens. C'est ça le local. C'est ça qui fait du lien ou qui n'en fait pas. Le problème, c'est que dans le développement durable, on dit que l'on veut faire articuler le local au global, mais on ne donne pas de clés et on n'a pas les clés pour promouvoir ça localement. Une fois qu'on a tous les principes d'un agenda 21 et qu'on veut les appliquer localement, par exemple, pour mettre en place une station d'épuration, eh bien, vous allez avoir les communes qui se battent entre elles pour ne pas l'avoir parce que ça fait des nuisances olfactives. Vous allez avoir les voisins qui vont se révolter contre ça parce que ça les ennuie, parce qu'effectivement, ils n'ont pas envie que ce soit là. Vous allez avoir des trucs absolument invraisemblables qui vont arriver. Comment on gère ça? Ben pour l'instant, on ne gère pas. Donc c'est un vrai problème pour la mettre en œuvre. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième élément, pour terminer, peut-être pas avec le... Ah ben si, il va falloir que je termine quand même. Ça fait une heure quand même. Oula. Troisième élément également important, c'est la notion de ressources. Quand on vous parle de ressources, vous avez l'impression que c'est simple. Les choses sont simples. Une ressource, c'est par exemple du charbon, du pétrole, de l'eau. Ouais, mais le problème, c'est que le charbon, ça a été une ressource, le pétrole, c'est encore plus simple, ça a été une ressource lorsque l'on s'est rendu compte que l'on pouvait s'en servir. Il y a 5 siècles de ça, à part pour allumer des lampes à huile, ou pour calfeutrer des berceaux ou des navires, vous savez, le pétrole, il ne servait pas à grand-chose. Donc, pour qu'une ressource existe, il faut encore que l'on décide de s'en servir. Non, pardon. Déjà que l'on sache que l'on peut s'en servir. Et ça, dans le temps, c'est quelque chose qui peut varier assez considérablement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en plus de savoir s'en servir, il faut encore que l'on décide de s'en servir. Il y a tout un tas d'objets dans l'environnement dont on ne veut pas se servir. À tort ou à raison. Et je vais vous donner 2 exemples extrêmement simples. Le premier exemple, il est caricatural, il est rigolo. Essayez de faire manger à un Américain qui meurt de faim une grenouille, juste pour rire, ou un escargot. Vous allez voir, c'est une ressource alimentaire, vous savez. Mais curieusement, ils n'en mangent pas. Essayons de nous faire manger à nous les sauterelles, juste pour rire, vous allez voir comme c'est drôle. Vous voulez des sauterelles à midi, là, si vous crevez de faim? Excellent. Un autre exemple plus dramatique, la question des gaz de schiste. Ah, mais les gaz de schiste, c'est une ressource, hein. On veut les utiliser? Non, c'est juste une question. Donc vous voyez bien que c'est vrai pour les ressources patrimoniales également, je ne vais pas m'éteindre dessus, mais ça ne va pas de soi, quoi. Là aussi, c'est un discours politique. Quand on vous dit qu'il y a des ressources, demandez toujours lesquelles. Or, pour un même territoire, pour une même action de développement durable, on se rend compte que les interlocuteurs que l'on a en face, ils ne parlent pas des mêmes ressources. Pas du tout. Vous voulez un exemple simple? Et je vais terminer là-dessus. Après, je conclurai sur les bocages. Un exemple simple pour terminer. Imaginez une jolie forêt. Une jolie forêt dans une grande ville. Qu'est-ce qu'on fait avec cette forêt? Il y en a qui vont vous dire, on va couper la forêt et construire des maisons, parce que ça fera des logements pour les personnes qui viendront après. Si on fait ça, ça peut être intéressant, mais on use la forêt, c'est la valeur d'usage de la forêt, et il n'y a plus de forêt. D'autres vont dire, mais non, c'est ballot, c'est pas ça qu'il faut faire. On va garder cette forêt comme une réserve foncière, c'est-à-dire qu'on va la garder sans l'utiliser, on va la prendre, Et puis lorsque plus tard on aura besoin de la ville aura besoin de s'étendre ou que les prix augmenteront trop, on en fera un espace constructible. Et à ce moment-là, on l'utilisera. Et pour l'instant, on la laisse en friche. C'est une valeur, on appelle ça une valeur d'option de cette ressource. Mais on peut aussi dire, cette forêt, elle est bien comme ça, elle attire les gens au terrain, ça donne une bonne image à la commune. Donc cette forêt, elle a une valeur d'existence. Non seulement il faut la garder, mais il faut l'entretenir, et il faut la mettre en valeur. Le problème, c'est que vous voyez, soit on coupe la forêt, soit on la laisse partir en friche, soit on en fait une jolie futaie. On ne peut pas faire les trois. Hein. Vous allez avoir du mal. Hein. Une fois qu'elle est coupée, il n'y a pas de futaie. Et donc le même objet va faire l'objet de trois traitements différents qui, je vous assure, peuvent être aussi durables l'un que l'autre. Donc là aussi, comment est-ce qu'on définit d'abord quelles sont les ressources et ensuite comment on s'insère? Là, pas de réponse non plus. Donc voilà trois éléments sur lesquels j'aimerais qu'on puisse gamberger ou que ça vous fasse un petit peu gamberger. Je voudrais terminer, j'aurais pu en avoir pour beaucoup plus, donc je vais juste terminer en conclusion par un petit exemple qui montre bien que tout n'est pas déterminable à l'avance, y compris dans le développement durable. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est juste une historiette comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a des bocages? Vous savez ce que c'est que les bocages, hein? Espèce de petits champs avec des bosquets tout autour, D'où ça vient les bocages? Vous savez? Bon, je vais vous le dire de manière assez simple, comme ça ira plus vite. En gros, dans l'an autour de. Dans le Moyen-Âge, je n'ai pas les dates exactes, je ne suis pas historien, les gens ont vécu une période dans laquelle il n'y avait pas trop de guerre, il y en avait quand même, pas trop de maladies, enfin bref, les conditions étaient clémentes, ils se reproduisaient beaucoup, ils devenaient de plus en plus nombreux. Et bien sûr, ils vivaient d'agriculture. Et les maisons étaient essentiellement des maisons en bois et en terre. Donc assez rapidement, on s'est retrouvé dans une Europe dans laquelle il n'y avait pratiquement plus de forêt. Parce que tout avait été déboisé et que tout était utilisé pour habiter ou bien était cultivé. Alors assez rapidement, le problème du bois de chauffage s'est posé, premièrement. Et puis, en deuxième lieu, le problème des conflits de voisinage s'est posé. Sachant qu'à l'époque, le conflit de voisinage ne se réglait pas chez le juge, mais d'un grand coup de pierre dans la tronche. Et quand le gars était mort, il y avait le prix du sang, on allait se resservir chez l'autre voisin, et en règle générale, ça faisait des guerres picrocolines épouvantables. Donc, il a fallu trouver un moyen de délimiter les propriétés des gens, de manière à éviter ces conflits de voisinage, tout en donnant du bois de chauffage. Le bocage, à l'origine, c'est ça. On fait des butées de terre pour séparer les terrains des uns des autres, et on plante du petit bois dessus, parce que ça sert à se chauffer. C'est aussi con que ça. On se rend compte, plusieurs centaines d'années après, que ça permet d'avoir de la biodiversité supplémentaire, parce que les bocages permettent d'avoir des oiseaux, des insectes, etc., qui permettent d'ailleurs de moins traiter les champs. C'est un coupe-vent, ça arrête l'érosion des sols, ça a une action d'éponge pour garder un petit peu l'humidité, et donc réguler un petit peu les phénomènes de ruissellement divers et variés. Bref, on se rend compte que sur le plan environnemental, c'est génial. Oui, mais on ne l'avait pas prévu comme ça au départ. Donc c'était juste pour vous dire, et pour conclure avec ça, que les choses les plus intéressantes ne sont pas celles qui sont forcément planifiées à l'avance de manière très très pensée, et que parfois, souvent, il y a des événements qui n'étaient pas du tout réfléchis dans ce sens-là, et qui peuvent donner des résultats auxquels on ne s'attendait pas du tout. Voilà. Je vous remercie de m'avoir, j'allais dire écouter, peut-être supporter, parce que là j'ai dépassé les 45 minutes tranquille, et je n'ai pas dit le quart de ce que je voulais dire. J'aurais dû me cadrer un peu plus. Merci.